France Culture.
Talmudique. René Adjiman et Valérie Perra-Guyot, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour évoquer l'œuvre d'Aaron Appelfeld, ce très grand écrivain de langue hébraïque, né en 1932 en Roumanie à Tchernovitz et décédé en 2018 en Israël. Nous avons abordé la question de la fiction la semaine dernière et il importe de comprendre ce que nous ferons aujourd'hui, en quoi le choix de la fiction est en lien avec la question des différentes langues que choisit Appelfeld pour s'exprimer. Cette question des langues constitue la seconde partie de votre ouvrage, seconde partie qui reprend le titre d'un film de Nourrit Aviv, D'une langue à l'autre. Dans cette seconde partie sont abordées la question du rapport d'Appelfeld à l'hébreu, qui n'est pas sa langue maternelle, mais qui le devint symboliquement, et vous écrivez un article, Valérie Perra-Guyot, intitulé « Sans langue maternelle, l'homme est infirme ». Comment la question de la langue maternelle se joue chez Aaron Appelfeld, Valérie Perra-Guyot ?
Bien, la langue maternelle, c'est d'abord celle qu'il a perdue, puisque l'allemand était la langue de ses parents. Et quand il parle de la langue allemande parlée par sa mère, j'ai pas la traduction exacte, mais il en parle comme de très fines clochettes. Donc on a l'idée d'une musique de la langue allemande pour lui. Mais la langue allemande va être la langue des assassins, en particulier de ceux qui ont tué sa mère. Il ne pourra plus la parler, il ne pourra pas écrire en allemand. La question, c'est qu'il est imprégné de plein de langues. En fait, les bonnes lui parlent en ruthène. Bon, il y a aussi, donc, on a vu ça la semaine dernière, le yiddish, qui est la langue des grands-parents, mais il ne la parle pas. Et quand il arrive en Palestine, c'est 46, c'est encore la Palestine, quand il arrive en Palestine, il ne parle plus aucune langue. Il a des bribes de mots de toutes les langues, mais il n'en parle plus aucune. Apprendre l'hébreu, c'est un hébreu militaire. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Enfin, il le dit, c'est acquérir la langue, mais c'est une langue qui est déshumanisée, là, pour le coup, pour lui, qui n'a pas d'âme. Et il parle d'un aplatissement de l'âme. Il dit que cette langue, telle qu'on lui demande de l'apprendre, est un aplatissement de l'âme. Alors, pour retrouver une langue, il va passer par la trace. Au fond, ce que disait René la semaine dernière, c'est qu'il passe par la trace où il réécrit le nom de ses parents, le nom de sa ville, de sa maison. Enfin, il trace les mots. Et il va passer par le recopier la Bible. Et je pense que là, on a aussi ce que dit Lacan, c'est-à-dire qu'il attrape la matérialité, dans le sens de la matérialité des mots, leur matière. Et c'est à partir de cette matière, de la matière même des mots, qu'il va pouvoir commencer à parler. Et le pas supplémentaire, c'est ce que développe dans le livre Michel Tauber, c'est sa rencontre avec des personnes qui parlent hébreu et yiddish, et là, à travers cette l'hébreu s'humanise. Ça reste, il le dit à un moment, une langue ascétique, difficile, mais l'hébreu s'humanise, il peut se l'approprier, il peut écrire.
Alors on a l'impression que presque, dans votre livre, tous les arts sont représentés, mais étonnamment, sauf la musique, on a des cinéastes, on a des peintres, mais il n'y a pas de musiciens. Et je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'il y a chez Appelfeld la musique de la langue, de sa langue ? Comment la définiriez-vous, ou comment les auteurs qui interviennent dans l'ouvrage parlent de cette musique de la langue, de sa langue, tout à fait singulière, reconnaissable entre toutes, une langue entre chuchotement et confidence ? Et son fils Meir, dont nous avons parlé la semaine dernière, écrit « Lorsque mon père lisait à haute voix l'un de ses écrits, il laissait chaque mot résonner, avant de passer au suivant, comme un musicien détache chaque note en direction de celui qui écoute. » René Adjiman.
Yigal Schwartz en parle dans son texte et il raconte que quand il lisait, parce qu'il demandait l'autorisation, est-ce qu'il utilisait les bons mots, est-ce que c'était ça qu'il avait voulu dire, il raconte un petit peu tout ce travail qu'il fait avec Aaron Appelfeld, et il dit que quand il écoutait ce qu'il avait écrit, il scandait avec des gestes de la main. En fait, c'est moi qui le rajoute un peu comme un chef d'orchestre. Et pour lui, d'ailleurs, il allait. La musique a toujours accompagner son écriture, parce qu'il avait besoin d'entendre de la musique, il écoutait beaucoup de musique classique et autres. Il allait dans les cafés, comme elle nous le raconte, Michel Tauber, dans les cafés à Jérusalem, il y avait toujours la musique ambiante, et c'était là qu'il pouvait écrire. Alors juste peut-être une petite, par rapport à l'hébreu, le choix de la langue, pour compléter. Alors lui, il dit, il aime cette langue parce que c'est une langue minimaliste. Quand tu disais, Valérie, tout à l'heure, que dans le fond, il avait recopié la Bible. Il dit que dans le fond, son modèle, en d'autres termes, c'était la Bible. Et il raconte d'ailleurs, Meir Appelfeld le raconte dans le texte, il dit quand Abraham, ce moment terrible dans la Bible, où Abraham doit sacrifier son fils, il raconte les détails, il prenait les fagots de bois, il prend l'âne. On voit que là, il n'y a pas de sens. Il voulait pas choisir une langue comme par exemple la langue de l'allemand, qui est une langue avec beaucoup de sens, beaucoup de fioritures autour, etc. Il voulait vraiment extraire les mots, et que quand on rencontre l'effet Appelfeld, comme tu disais tout à l'heure, mais quand on le rencontre, c'est les mots. Ils s'extraient comme ça, ils sortent, si vous voulez. Et c'est ça qui touche. Parce que sinon, tout le sens, ça vous brouille.
Ce sont des mots d'action.
Mmh. Voilà.
Alors, dans cette musique, c'est important d'ailleurs que vous dites qu'il écrivait au café, parce que ça dit aussi que son écriture naît de la rencontre. Mmh. Il n'est pas un écrivain dans la solitude de son bureau. Il parle souvent aussi de la musique de la voix de sa mère, qui lui lisait des histoires avant de dormir. Il dit qu'il ne se souvient plus des histoires, de toutes les histoires, mais il se souvient de la musique de sa voix. Valérie Péraguillo, la musique de la voix de la mère.
Alors, je ne veux pas digresser trop sur la psychanalyse, mais au fond, c'est un des objets, la voix. Enfin, il y a des objets pulsionnels, pour pas dire objet petit à la cagna, mais des objets pulsionnels avec lesquels on a affaire et qu'on va retravailler. Et lui, la voix, elle est extrêmement présente. Chez un homme de silence, la voix est essentiel, enfin, ce qui paraît paradoxal et pourtant est essentiel, la voix et le regard, puisque c'est aussi un homme qui a des visions de, quand il est en particulier dans les forêts, il a des visions de son enfance, et c'est à partir de ces visions et de se laisser pénétrer par ces visions qu'il va pouvoir vivre des visions, je dirais, positives quand il est dans les forêts d'Ukraine. Donc c'est l'objet regard, l'objet voix, on voit combien ça soutient son écriture.
Vous parlez de la voix, on parle de la voix, on parle beaucoup de la langue d'Appelfeld, des mots et de leur musique, mais il y a aussi le bruit assourdissant du silence au cœur de son œuvre. Je pense que c'est important de parler de ce silence chez Aaron Appelfeld, et d'ailleurs, de très nombreuses pages de votre livre y font allusion, quasiment chez tous les auteurs. Il faudrait parler donc non pas du silence, mais des silences. Prenez Adjiman.
Les silences, c'est très intéressant de pouvoir le reprendre au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'un seul silence, en effet. Alors, lui, il est dans le désert des langues, à ce moment-là. Il est dans le silence. Et il y avait aussi quelque chose de très spécifique à cette période-là, où finalement, ne pas parler était se protéger. C'est l'un des silences aussi qui était nécessaire à la survie. Alors on le retrouve aussi chez Aaron Appelfeld, dans ce silence-là. Et le silence entre les mots, bien entendu, où finalement, pour faire ressortir le mot, il faut du silence. Et le silence pour écouter l'autre en même temps.
Valérie Péraguillo.
Je compléterais en disant qu'il y a ce paradoxe, c'est qu'il parle de l'océan de mots, quand la fin de la guerre, où effectivement il y a soit les personnes qui avaient traversé la Shoah, on leur, d'une certaine façon, interdisait d'en parler. Il y avait un interdit d'en parler, donc un silence imposé de l'extérieur. Et il y avait un autre silence qui était ce qu'il appelle après l'océan de mots, c'est-à-dire qu'il y avait eu le courant contraire, on devait tout dire sur ce qui était arrivé. Et il ne se reconnaissait dans aucun de ces deux silences-là. Au fond, le silence dans lequel il va pouvoir se reconnaître, c'est un silence beaucoup plus ascétique, c'est un silence beaucoup plus profond, c'est un silence qui lui permet au contraire de retrouver des traces de son histoire. On voit la matière de son travail, c'est le silence, mais c'est un autre silence.
Et comment cela se traduit dans sa fiction ?
Parce qu'il a justement, à chaque fois, il attrape des choses de son enfance, mais il n'en fait pas une autobiographie, c'est-à-dire qu'il, à partir de traces de ce qu'il a vécu, il va créer une histoire. Mais il y a toujours un décalage. C'est ce que traduit Valérie Zenati dans le livre. Elle parle du mystère Aaron Appelfeld. En plus, le plus grand mystère qui est impensable. Il décrit des gens qui ont vécu en Europe, sous l'Empire austro-hongrois, la Mittel-Europa, et il vous écrit tout ça en hébreu. Donc au fond, là aussi, il y a un décalage. Qui permet l'écriture? C'est comme ça que se tisse la fiction, dans ces décalages.
Décalage de ce silence, de ces langues qui sont déjà des traductions de langues. On est dans des images qui se substituent les unes aux autres. Et j'ai l'impression que ce silence, c'est aussi l'image du cinéma qui se substitue au texte. Dans les adaptations cinématographiques, par exemple le film La Mosquitaille qu'on a évoqué la semaine dernière, et le film d'Emmanuel Finkiel qui vient de sortir en 2025, deux films complètement différents, avec des options esthétiques très différentes, et tous deux très réussis. Et dans tous les deux, la question de la langue est au centre du propos, la langue comme personnage, comme l'un des personnages importants, voire central du film. René Adjiman, je me rappelle que dans le texte d'Amos Gitaï, qu'il y a dans votre livre, il explique qu'il s'est posé la question en quelle langue le film devait être tourné et quelle est la réponse.
Lui, il a choisi le yiddish. Et quand il a annoncé à Aaron Appelfeld, il était vraiment très surpris de ce choix qu'il fait. Et Amos Gitaï nous raconte dans son texte tout le périple par lequel il passe pour trouver le yiddish, le yiddish. On parlait de, justement des silences, mais il y a des yiddish finalement dans la tradition ashkenaz, qu'on peut dire. Et donc dans le fond, il cherchait, et voilà, il va faire ce parcours-là parce que pour lui, il y avait quelque chose de l'histoire d'Aaron Appelfeld qui était l'histoire du yiddish. Il y a une expression, je crois, qui est reprise par Michel Tauber, qui est « mamaloshon », c'est-à-dire la langue maternelle. Et je crois que c'est un peu cet hommage-là qui lui rend à ce moment-là.
Maternelle et grand-maternelle.
Et grand-maternelle, bien sûr.
Puisqu'il parlait allemand dans sa famille, et c'est les grands-parents qui parlaient le yiddish, mais une langue aussi qui est un hommage à l'ensemble de tous ceux qui ont disparu, parce que cette disparition de la Shoah, c'est aussi la disparition d'une langue.
Absolument.
Même si, comme je l'ai dit la semaine dernière, Aaron Appelfeld disait qu'il n'est pas un écrivain de la Shoah, mais il est quand même un écrivain lucide, et il sait que cette langue, et le Yiddishland, a disparu, et Amos Gitaï voulait rendre hommage à cette langue. Qu'en est-il de ces différentes langues? On le trouve aussi dans le cinéma de Emmanuel Finkiel, où lui aussi se demande dans quelle langue il va tourner, mais il va tourner, lui, dans plusieurs langues, Valérie Péraguillo.
Je me souviens qu'il a tourné en ukrainien, avec Mélanie Thierry, qui ne parlait pas au départ un mot d'ukrainien. Donc il a choisi, lui, de prendre la langue du pays où a vécu Aaron Appelfeld. Il a choisi l'ukrainien, et donc il y a des acteurs ukrainiens dans le film.
Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez, alors chez Freud, on voit par exemple dans L'homme au loup, il y a tout un travail entre le russe, l'allemand et d'autres, l'anglais, d'autres langues. Est-ce que dans votre travail de psychiatre, psychanalyste, vous rencontrez aussi ce jeu entre les langues qui permet d'élaborer une fiction sur le divan qui va justement tourner autour du traumatisme, comme vous l'avez dit la dernière fois, et qui va permettre justement d'avancer parce que on voile des choses qui sont impossibles à regarder.
J'ai eu pendant un temps à travailler avec des migrants, des personnes qui avaient traversé l'horreur, qui ne parlaient pas ma langue, qui ne parlaient pas français, qui ne parlaient pas bien anglais non plus, donc nous passions par Internet. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que le pire, c'est d'avoir à raconter une histoire qui n'est pas la sienne. Justement, on retrouvait ça chez Appelfeld. Appelfeld avait au départ à se tenir comme un bon petit soldat qu'il n'était pas. Et le travail que je faisais auprès des migrants, c'est qu'on leur vend une histoire pour qu'ils puissent avoir des papiers. On leur vend une histoire et donc ils n'ont même plus leur histoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus leur langue, ils n'ont plus leur histoire. Et tout le travail, c'est bien qu'ils aient suffisamment confiance pour pouvoir raconter à quelqu'un leur histoire et dans leur langue. on passait par Internet, mais l'idée, c'était qu'ils puissent avoir quelqu'un qui entende quelque chose de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Et je pense que chez Appelfeld, on a ce parcours, retrouver son histoire également.
À Rouen-Appelfeld, j'aimerais beaucoup qu'on puisse parler du professeur Gustave Gutzmann, dont vous parlez à l'intérieur de votre livre « Histoire d'une vie ». Nous ne connaissons pas l'histoire du professeur Gustave Gutzmann. Pouvez-vous en parler ?
It is my invention.
C'est mon invention.
You understand? Because there was a very famous
Parce qu'il y avait un médecin extrêmement célèbre et un écrivain aussi.
Was Korczak.
Son nom était Korczak.
And he was a doctor.
C'était le médecin d'un orphelinat pour les orphelins.
And when he came the time to
et
go to Auschwitz,
quand le temps est venu de partir pour Auschwitz, il est resté avec les enfants jusqu'au crématoire.
I wanted to, this moment,
je voulais que ce moment
Korczak is going
où Korczak part avec les enfants au crématoire, je voulais que ça soit dans mon livre. C'est pour ça qu'il est là. C'est probablement la seule personne que j'ai utilisée en tant que modèle. Mais je voulais qu'il soit dans mon livre.
Nous venons d'entendre un extrait de L'Heure Bleue, l'émission de Laure Adler, sur France Inter du 22 février 2017. Aaron Appelfeld est traduit par Michel Zlotowski, et ce qui est très étonnant, c'est que tout l'entretien est en hébreu, et tout à coup, Appelfeld passe à l'anglais pour évoquer la figure de Korczak dans une réponse qui commence par « C'est mon invention, it's my invention ». Comment interprétez-vous qu'il n'ait pas voulu ou pu répondre en hébreu la langue de son œuvre littéraire ? Rappelons que sa langue maternelle était l'allemand, vous l'avez dit plusieurs fois l'une et l'autre, de l'allemand de l'Empire austro-hongrois, le même allemand que Kafka, et il aimait à le souligner. Pourquoi donc passe-t-il par l'anglais pour évoquer Korczak, René Hadjiman ?
Peut-être dire pourquoi, enfin, à un moment donné, dans le texte que je fais, je parle de cette langue minimaliste qui est l'hébreu, et pour écrire ses fictions, hein, où il dit, dans le fond, il correspondait à son vécu apocalyptique, et elle convient à son style, qui va bien, et qui valorise l'espace entre les mots plutôt que les mots eux-mêmes. Et quand il le dit en anglais, c'est un petit peu cette manière, c'est-à-dire que dans le fond, il a écrit des fictions. Il disait quelque chose de très juste, tout est vrai, mais rien n'est vrai. C'est comme ça qu'il définissait son travail et son écriture. Quand il dit, vous nous l'avez fait écouter en anglais, en effet, la seule personne dont il parle de son... Là, on quitte le champ de la fiction et il voulait valoriser, faire hommage à cet homme, mais il le parle, il a existé et tout le monde le connaît. Donc c'est peut-être prendre une autre langue alors que la fiction est écrite en hébreu et la langue qu'il prend l'anglais, qui est quand même très neutre par rapport à son histoire, c'est comme ça qu'il réintroduit quelque chose qui a vraiment existé. Là, c'est vrai.
Alors, paradoxalement, parce que Korczak a réellement existé, et il commence la réponse à Laure Adler, « It's my invention ouais. », c'est mon invention. Voilà. Donc peut-être que c'est là où on touche au plus près de la fiction de Appelfeld, c'est-à-dire, oui, comme vous le dites, tout est vrai et rien n'est vrai.
Et rien n'est vrai, c'est vraiment sur l'équivoque là qu'il la donne. Laure Adler, elle était là vraiment à lui dire « Mais enfin, c'est votre histoire !» Et il disait « Tout est vrai, rien n'est vrai oui. ». Comme ça, ça répondait finalement à qui voulait les indices autobiographiques, les autres dites « Mais non, c'est fictionnel, il l'a vécu, il l'a pas vécu », ça laisse un petit peu dans cet entre-deux.
Alors, je précise que l'extrait que nous avons entendu se trouve transcrit dans le livre, c'est-à-dire voilà. que cette interview de Laure Adler a été transcrite et constitue un des articles de votre livre. Alors, le texte d'Appelfeld, c'est aussi son style. On a parlé de la musique d'Appelfeld, on vient de parler de sa fiction où tout est vrai et rien n'est vrai, mais il y a un style. Ce style, Yigal Schwartz, dans votre livre, en parle très bien. Appelfeld préfère toujours les événements et la description à l'interprétation et l'amplification. Et dans votre article, René Hadjiman, vous ajoutez l'indicible et le style même de son écriture. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
Ça résume, dans le fond, tout ce qu'on a pu dire par rapport aux mots et par rapport à sa langue. C'est-à-dire que l'indicible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Il y a quelque chose qui est impossible à dire. Et donc, il en a fait, et c'est là, pour moi, l'hypothèse que je fais, dans le fond, c'est une trouvaille. C'est là la trouvaille, vraiment, d'Appelfeld. C'est de faire de l'indicible un roman et une fiction. Parce que ça montre aussi un paradoxe. Si on ne peut pas le dire, on ne peut pas l'écrire. Donc, il y a quelque chose là qui... Ce terme d'indicible, c'est comment on fait, et c'est ce qui se passe dans une analyse. On va repasser par tous ces moments très difficiles, très compliqués, etc. Mais quel bricolage, quelle invention on en fait pour l'avenir? Et c'est tout l'œuvre, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite de l'œuvre d'Appelfeld, c'est ça, c'est qu'à la fois il y a quelque chose de dramatique, de tragique, mais il en fait quelque chose, il en fait une invention.
Vous venez de dire qu'il y a quelque chose de tragique, et effectivement, beaucoup de ces textes sont tragiques, et on peut avoir l'impression, justement, que c'est une œuvre dans laquelle tout est sérieux. Pourtant, il y a aussi beaucoup d'humour. Oui. C'est un comique mélangé de tragique. Mmh. Valérie Péraguillot, vous parlez de tragicomique dans son texte.
Effectivement, je trouve des notes d'humour, mais ce n'est pas triste de lire Appelfeld. Ce n'est pas triste, parce qu'il va à chaque fois chercher cette part d'humanité qu'il y a dans les détails. Donc, ce n'est pas triste, mais sur fond de drame absolu.
Petit exemple là-dessus, c'est dans le livre Baden. Donc, Baden, c'est un lieu de villégiature où les Juifs sont là. Et il dit à un moment, la description qu'il fait à la fin du livre, où il dit le chef d'orchestre, il est avalé, ils n'ont pas le temps de manger les chocolats et les gâteaux qu'ils avaient dans la main, etc. Et donc, il y a une forme de « on peut rire ». Il traduit ce tragique en comique, et à la fin, vraiment la dernière phrase du livre, si les wagons sont aussi sales, c'est qu'ils n'iront pas loin. Alors vous avez toute la déclinaison comme ça. Dans un premier temps, c'est rigolo, parce que on pourrait dire c'est comique, mais c'est vraiment une tragédie qu'il a traduit de manière comique, mais quand même la chute, là on voit, et on le sait parce qu'on sait l'histoire, qu'ils n'iront pas loin, voyez. Moi je trouve que dans Baden et la fin de son livre, ça résume tout à fait la question que vous posiez.
Et ça rejoint la question de l'indicible comme style. On revient un petit peu à un des thèmes qui traverse toute l'œuvre, et qui est la relation des parents et des enfants, l'amour et le respect pour les parents. Et le texte de son fils, justement, dans le livre, le texte de Meir Appelfeld, est particulièrement émouvant, Valérie Péraguillot.
Au fond, là, dans le texte de Meir Appelfeld, on a la transmission, je dirais, presque en acte, de ce que son père lui a transmis à lui. On ne sait pas, puisqu'on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas eu de témoignage de ses deux autres enfants, mais à la fois, il parle de son père comme ayant gardé quelque chose de l'enfance, et en même temps, un père qui est là, présent auprès de lui en tant que père. Je voudrais dire un petit mot sur la question du père, parce que ça traverse tout le texte de Meir Appelfeld, mais quelque chose m'avait frappé, c'est qu'à un moment, Appelfeld dit, il retrouve son père, complètement par hasard, vraiment.
Mais ça, on n'a pas dit, je crois que c'est important de le souligner, parce qu'on a dit qu'il est déporté avec son père, que Aaron Appelfeld s'évade du camp de concentration, mais on n'a pas encore dit qu'il retrouve son père par hasard 20 ans plus tard en Israël. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner, peut-être même raconter comment il le rencontre, et puis après, peut-être expliquer justement cette relation avec son père.
Alors, justement, moi, ce qui m'a frappé, c'est Appelfeld parfois peut-être d'une pudeur absolue. Dans tout ce que j'ai pu lire et entendre, il dit juste « j'ai retrouvé mon père ». Ce qui était un peu difficile, c'est qu'il voyait toujours en moi l'enfant qu'il avait quitté quand j'avais 8 ans. Et il n'en dit pas plus. Par contre, ce qui m'a beaucoup touchée sur ce qu'il dit du père, c'est que s'il a tenu le coup ce petit bonhomme, c'est parce qu'il était avec des parents qui l'ont soutenu quand il était tout petit, et en particulier un père qui ne lâche pas la main de son fils tout le temps où il traverse l'Ukraine avec les nazis quand même à droite et à gauche. Et au fond, je crois que ce qui se transmet de père en fils dans l'œuvre d'Appelfeld, de son grand-père même, de la foi de son grand-père maternel, qui est là très présent auprès de lui avec des mots très simples, à son père, à lui et à son fils. Enfin, il y a quelque chose qui se transmet du respect, de la pudeur et d'une présence silencieuse.
Et d'une confiance.
Et d'une confiance, voilà. Et qui vous donne une assise dans le monde, certainement.
Peut-être par rapport à la question sur les enfants, Laura Adler en particulier, qui lui a posé la question, mais comment avait-il fait pour supporter tout ce qu'il a vécu? Mais qu'est-ce qui vous a soutenu, Aaron Appelfeld, pendant ces temps? Il dit, c'était de penser, on avait fait une promesse à nos parents qu'on en sortirait vivant.
Alors, quelque chose qui est important. Alors, on a cité Meir Appelfeld, le fils, qui parle de son père et de sa mère, comme son père, Aaron, faisait parler ses personnages. Et je sens beaucoup d'écho avec le travail analytique qui se passe sur le divan. J'aimais cette phrase de Meir Appelfeld, donc le fils. « Nos vies sont enserrées entre deux néants. De là provient le mystère de leur maillage. Le néant ne signifie pas le vide, mais une plénitude qui réside dans l'invisible. » Il exprime la présence de nos parents au sens propre et le plus large du mot, ce qui nous est le plus proche et le plus lointain, à l'instar du reflet que nous voyons dans le miroir. Cela mérite un commentaire et c'est un petit peu d'ailleurs ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le néant n'est pas le vide mais la plénitude qui réside dans l'invisible.
Moi j'ai l'impression que Meir Appelfeld, il a saisi ça, lui, par la peinture. Au fond, lui, c'est au niveau du regard qu'il a saisi cet indicible et cette plénitude d'un certain néant. Moi, je pense que lui, c'est par le regard.
Alors, pour reprendre sur la peinture, parce que tu m'y fais penser, la peinture de Meir Appelfeld, on voulait prendre pour la couverture du livre une des peintures de Meir Appelfeld. Mais malgré la résolution, en cherchant vraiment, c'est une peinture, il peint des natures mortes, et d'ailleurs il a travaillé sur Poussin, il a été très influencé par ce grand peintre Poussin, où il y a tous les détails aussi qu'on voit dans les peintures, mais lui, il a choisi tout à fait autre chose, c'est-à-dire c'est assez sombre, les meubles, les objets se fondent un peu là-dedans, il faut vraiment regarder hein, pour pouvoir en distinguer quelque chose, et donc c'est peut-être un peu ça à la réponse qu'il fait, lui aussi avec le regard, un regard, mais un regard aussi voilé. Pas un regard qui vient dire les choses.
Hein, je crois que ça, c'est prendre le temps de regarder.
Le prendre le temps et de chercher un peu tout ça.
Et alors, dans ce texte de Meir Appelfeld, dont on parle beaucoup, puisque c'est quand même le fils qui écrit sur son père, on découvre plus clairement, même si on en avait eu l'intuition en le lisant, que Aaron Appelfeld était un véritable mystique, inspiré par la Kabbale et surtout le chassidisme, cherchant à équilibrer la mesure du jugement et la mesure de la grâce. Alors je vais le dire en hébreu parce que c'est plus parlant, midat adin et midat achesed, afin de, dans cet équilibre, de faire surgir les étincelles dissimulées en chacun de nous. N'est-ce pas cette sensation que ressentent ses lecteurs et toutes les personnes qui sont allées à sa rencontre, ce qui peut aider à trouver une voie réparatrice après le 7 octobre, comme l'esquisse très délicatement Michal Govrin en conclusion de l'ouvrage?
Alors moi je me suis posé la question, qu'est-ce qu'aurait dit Aaron Appelfeld sur ce qui s'est passé? Alors lui, il n'a pas vraiment répondu parce qu'on lui demandait « dites-nous quelque chose de votre expérience à vous » puisqu'il y répond par la fiction. Il aurait dit dans le fond qu'il croyait en l'humanité, qu'il croyait au peuple, qu'il croyait à la paix parce qu'il a dit vraiment « on vit avec nos voisins, ils sont juste à côté de chez nous, l'une paix est possible ». Voilà comment il répond. Alors il est aussi pris dans la tradition chassidique. Quand on parlait du tragique et du comique, on retrouve ça dans la tradition chassidique, c'est-à-dire quelque chose, vous vivez des choses terribles, mais comment vous la transposez? Et je crois que c'est ça aide d'une certaine manière. Voilà comment je répondrai à cette question. Quelque chose où vous accrochez, il y a un possible. Et il y a un point, je crois que c'est dans le texte de Michel Taubert, où il dit, quand il a rencontré à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais non, ça va aller, vous allez voir, etc. » Et là, il répond « Ça, c'est le véritable amour. » Il dit « Quelqu'un qui vous dit ça, voilà, ça vous soutient. »
Moi, je vais répondre avec une phrase de Lacan qui est pleine de paradoxes et en même temps, à mon avis, tout à fait applicable à ce qui s'est passé et ce qui se passe. Je le cite de mémoire. « Qu'est-ce qui permet de vivre ensemble en étant séparés ?» à l'ère des grands empires, du capital et de la science. Alors, comment répondre à cette question ? Moi, je dirais que c'est le respect des différences. Mmh. Et au fond, ce livre, il y a des juifs et des non-juifs qui l'ont écrit. Et c'est justement, on voulait ce respect des différences. Et je crois que, voilà, ce livre, c'est un pont avec des différences et le respect de l'autre, de sa différence. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble.
Vous parlez de juifs et de non-juifs, mais je crois qu'à aucun moment, quand on lit Appelfeld, on a l'impression qu'il parle pour des juifs.
Absolument.
C'est-à-dire
pas.
Qu'il
Vraiment,
parle, pour
universel.
Parle pour l'universel.
C'est universel.
René Adjimant.
C'est un livre qui fait rencontre. On a une lecture subjective d'Aaron Appelfeld. C'est ça qui donne. C'est-à-dire que chacun, de là où il est, de là où il se sent, va en lire un petit bout, mais pour lui-même. Donc finalement, c'est au-delà de l'universel. C'est la dimension de l'intime qui est convoquée dans la rencontre. Et c'est ce qui m'a enseigné Aaron Appelfeld.
Merci René Adjimant et Valérie Perraguillot pour ces deux semaines de très belles conversations. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé, Rencontre avec Aaron Appelfeld, un très très beau livre. C'est aux éditions Imago. Merci encore mesdames.
Merci beaucoup Marc-Alain pour votre invitation et donner l'occasion de parler de ce livre.
Et
d'Appelfeld en particulier.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Éric Perruchot-Triboulet, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Coltouv, l'œil trotte, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.